Patrick Sadone, donc bonjour.
Bonjour.
Donc vous, pour la Confédération Paysanne, vous êtes un peu spécialisé dans les agrocarburants. Vous constatez ou vous avez expliqué comment cette filière des agrocarburants était aujourd'hui le jour très peu rentable.
Disons qu'elle s'est mise en place à une époque où on était dans un contexte de surproduction agricole par rapport à la demande solvable. C'était dans les années 80-90, et donc il fallait trouver un nouveau débouché pour les produits agricoles, notamment les céréales, les betteraves, etc. Et donc l'idée est venue de produire du carburant à partir de ces produits-là. Ça s'est mis en place doucement, plus ou moins rapidement selon les pays. Aujourd'hui, on est en Europe avec un outil industriel qui s'est installé, qui s'est développé. Seulement, le contexte, il a beaucoup changé et on n'est plus du tout dans la même situation qu'à l'origine de ces filières-là. Les stocks de produits et de céréales, notamment, ils ont fondu. La demande alimentaire mondiale, elle a augmenté à cause de l'augmentation de la population mondiale et à cause du changement des régimes alimentaires dans certains pays émergents où les gens accèdent à un niveau de vie plus élevé, donc ils se mettent à manger davantage de produits laitiers et de produits carnés, alors qu'avant ils mangeaient essentiellement des céréales. Donc ça veut dire qu'il faut produire beaucoup plus de produits alimentaires de base, notamment pour l'alimentation animale, pour assurer cette demande alimentaire nouvelle. En plus, on a le changement climatique qui commence à faire des effets dans certaines régions du monde, avec des accidents climatiques qui se multiplient et qui commencent à compromettre les rendements qui sont récoltés. Donc on n'est plus du tout dans le même contexte et on a ces usines qui sont en fonctionnement. Donc la question, c'est de savoir, est-ce que vraiment il faut continuer ? Si on fait un petit peu l'analyse, parce que l'objectif des agrocarburants, c'est d'améliorer notre indépendance énergétique et c'est de réduire les émissions de gaz à effet de serre du secteur des transports routiers qui est très fortement dépendant du pétrole, donc très émetteur de gaz à effet de serre. Si on fait une analyse de cycle de vie de la production des agrocarburants, on s'aperçoit qu'en fait ces objectifs ne sont pas atteints. Donc finalement on a tout faux avec ces agrocarburants et en plus ça coûte très cher aux automobilistes parce que c'est vendu à un prix qui est très élevé. Et donc, on est complètement perdant sur tous les tableaux.
C'est une aberration économique, donc ?
C'est une aberration économique, c'est une aberration environnementale, et puis c'est une aberration sociale, parce que c'est vrai que ça a fait une tension supplémentaire sur les marchés alimentaires. Les éleveurs, ils sont fortement pénalisés, parce qu'ils sont quand même fortement tributaires, surtout dans la région ici, de l'approvisionnement en céréales pour l'alimentation des animaux. Et puis, c'est aussi très préjudiciable dans les régions du monde où il y a des populations qui ont des niveaux de vie très faibles, qui consacrent énormément d'argent, la plus grosse partie de leur budget à l'alimentation. Quand vous consacrez 60% de votre budget à l'alimentation et que les prix des produits de base, ils sont multipliés par 1,5, du coup, ça passe plus, quoi. Et donc, ça pose des problèmes en termes de sécurité alimentaire et de paix. Et donc, vraiment, il faut se poser la question de savoir si on doit continuer dans cette voie-là.
C'est un choix politique ? Et en quoi Xavier Belin est-il concerné ?
Alors, c'est un choix politique qui a été fait il y a quelques années. Et le problème des politiques, c'est que généralement, un homme politique, sauf s'il arrive en fin de carrière, répugne à reconnaître qu'il s'est trompé. Donc on continue sur cette lancée parce que les politiques qui ont décidé de faire ça, ils sont toujours en place. Donc, ils ne vont pas se déjuger, donc on continue de le faire. Alors, Xavier Belin, là-dedans, qu'est-ce qu'il vient faire ? C'est un acteur majeur du développement des agrocarburants en France, puisqu'il est depuis 2000 président de la société Sophie Proteol, qui est productrice du diester. Et donc, c'est vraiment un acteur tout à fait incontournable de la question des agrocarburants en France, notamment. Et aujourd'hui, c'est lui qui milite le plus pour qu'on continue dans cette voie-là. Aujourd'hui, le problème qui se pose, c'est que depuis 2011, il est également président de la FNSEA, donc le syndicat agricole majoritaire en France. La question qu'on peut se poser, c'est pourquoi est-ce qu'il a été chercher cette fonction-là ? La réponse, elle est assez simple, c'est qu'en fait, sa filière est aujourd'hui en difficulté, puisqu'elle est contestée, à la fois au niveau économique et au niveau environnemental. Et donc, il s'est dit que pour pouvoir la défendre plus efficacement, c'était intéressant pour lui de devenir président de la FNSEA parce qu'il aura plus de poids face aux politiques pour défendre sa filière que s'il reste simplement président de Sophie Proteol. Et donc aujourd'hui, ce qu'on peut reprocher à Xavier Belin, c'est de faire passer les intérêts de sa filière qu'il a construite, parce que c'est lui qui l'a construit. Quand il est arrivé en 2000 à Sophie Protéol, il y avait 400 000 tonnes de capacité de production de diester. Aujourd'hui, on est 6 fois plus élevé. Hein. Et il a réussi, par divers moyens qui sont un petit peu à la limite, on va dire, de la, enfin, sinon de la légalité, du moins d'une déontologie minimum que chaque industriel devrait respecter, il a réussi à vraiment faire une structure qui est aujourd'hui extrêmement riche et qui a gagné beaucoup d'argent, qui a beaucoup investi, notamment dans l'alimentation animale, dans d'autres secteurs stratégiques. Mais c'est vraiment, quand on décortique un petit peu tout ça, quand on regarde comment est-ce que cet argent a été obtenu, on s'aperçoit que vraiment, c'est pas très reluisant, quoi.
C'est sur le dos des contribuables ?
C'est, pour le diester, c'est effectivement en partie sur le dos des contribuables, mais c'est surtout sur le dos des automobilistes.
D'accord. Il y a, dans son cas, il y a conflit d'intérêts et juridiquement, il est attaquable ?
Écoutez, moi, je suis pas juriste, donc je me garde bien de me prononcer sur cette question-là. Moi, ce qui m'étonne quand même un peu, c'est que les associations de consommateurs, que pour ma part, j'ai alerté personnellement sur le dossier depuis un certain nombre d'années, moi, j'estime qu'elles ont quand même pas tout à fait fait leur boulot, parce que les automobilistes, vraiment, ils sont passés à la caisse. Hein, et ils continuent de passer à la caisse.
Hein. Ils passent à la caisse comment, en payant plus cher l'essence normale ?
Voilà. Alors, il y a... D'une part, ils payent l'essence, ils payent le carburant, parce que l'essence, il y a de l'éthanol dedans, et le gasoil, il y a des esters méthyliques d'acide gras dedans. Donc, aujourd'hui, tout le monde achète des agrocarburants quand on fait le plein de sa voiture.
Oui, ça a été imposé, parce que c'est pas forcément nécessaire.
Voilà, ça a été imposé aux automobilistes, et depuis novembre 2011, ça a été aussi imposé aux agriculteurs. Avant, ils utilisaient du fuel domestique pour les tracteurs, maintenant, ils sont pas obligés de passer au gasoil non routier, donc GNR, qui contient 7% d'agrocarburant. Et si les automobilistes, ils n'ont pas trop vu la différence, parce que la progression a été graduelle sur 10 ans, on est passé de pratiquement 0% de diester dans le gasoil à 7%, donc les gens, ils n'ont rien vu. Par contre, les agriculteurs, ils sont passés brutalement de 0% à 7% en une année. Et là, ils ont vu la différence au niveau de la facture, donc c'est plus cher à l'achat au litre, et au niveau de la qualité du carburant, puisque on a un contenu énergétique du diester de M. Belin qui est sensiblement plus faible que le gasoil. Donc quand on mélange les deux, bon, 7%, ça se voit pas encore de trop, mais les agriculteurs, ils l'ont vu au niveau de la consommation de leur tracteur. Pour labourer un hectare, eh ben, les agriculteurs, ils se sont aperçus qu'ils devaient mettre plus de carburant qui coûtait plus cher dans leur tracteur que ce qu'ils faisaient l'année précédente. Donc il y a une double imposture, hein, puisqu'il y a une imposture sur le fait que les objectifs que la collectivité a assigné au développement des agrocarburants, qui sont donc la réduction, enfin l'amélioration de notre indépendance énergétique et la réduction des émissions de gaz à effet de serre, ces deux objectifs-là justifiant l'effort qu'on demande aux gens, eh bien en fait, ces deux objectifs-là ne sont pas atteints. Au contraire, hein, on peut montrer assez facilement que, par exemple, en termes de balance commerciale, une tonne d'huile, au lieu de la vendre sur le marché mondial à 1 000 euros, aujourd'hui c'est le prix que ça vaut. Donc au lieu de renoncer à la vendre ou au lieu de l'importer pour l'estérifier et faire de l'ester méthylique, qui va remplacer un petit peu moins d'une tonne de gasoil qui coûte 700 euros, eh ben, ça coûte 300 euros à la balance commerciale. On s'était dit avec le diester, c'est formidable, on va gagner de l'argent au niveau de la balance commerciale, mais non, on en perd. Bon, sur l'éthanol, c'est encore pire. On a un peu calculé très facilement que faire de l'essence avec du blé, aujourd'hui, ça coûte 3 fois plus cher que faire de l'essence avec du pétrole, malgré l'augmentation du prix du pétrole. Donc, de toute façon, c'est une aberration. Donc là, il y a une imposture. Et la deuxième imposture, eh ben, c'est sur le fait que on arnaque les gens. Hein, au niveau du prix qu'on vend ça, les gens payent ça beaucoup, beaucoup trop cher par rapport à ce que ça devrait être vendu.